Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vincent Manilev.
Ah, putain. C'est ça que je voulais, c'est une vibe.
Et ben c'est parti.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et parfois s'engueuler autour des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler des Vieux Fourneaux, une comédie un peu senior de Christophe Duturon avec Pierre Richard, Roland Giraud et Eddie Mitchell. Autour de moi, j'ai mon poteau Hugo Alexandre.
Salut Daniel.
Et mon frérot Max Besnard.
Salut Daniel.
Ah, c'est ça que j'aime.
Vous partez au week-end, monsieur Mimille?
Je vois un enterrement.
Et de qui donc?
Le mien, j'en ai bien peur. Où est ton rétro?
Dans la boîte à gants.
Allez!
Antoine a besoin de nous. C'est notre pote. Il vient de perdre sa femme.
C'est quand même pas compliqué de passer correctement à la tondeuse pour les obsèques de sa mère, non?
Bon, je vous laisse, je suis claqué. Bonne nuit, les affreux.
Bonne nuit, les affreux. Ah, ça t'inspire pas une vibe, j'ai l'impression, Max.
Non.
Les affreux, c'est Pierrot, Mimille et Antoine, trois seniors, comme on les appelle. Et ils sont amis d'enfance et bah voilà, donc ils vieillissent ensemble. Et du coup, bah, il y en a un, bah, il perd sa femme. Et du coup, il se motive pour se remettre un peu ensemble, comme des copains. Est-ce que ça...
la vache, c'est ça super, te rend pas très bavard.
C'est super ton... ambiance.
Pas super
ambiance. Ah non, mais trop bonne ambiance. Est-ce que toi, ça t'a fait rire?
Écoute, il y a quand même quelque chose... Je vais parler de ma vie juste une petite seconde avant.
ma vie
pendant les vacances, donc il n'y a pas si longtemps, j'étais en voiture avec ma compagne et il y a un bus qui s'arrête à côté de notre voiture et il y avait la pancarte des Vieux Fourneaux dessus. Et je regarde le truc et je fais, tu vas voir, à la rentrée, c'est le genre de film que j'allais me coltiner encore. Et ça n'a pas loupé quand j'ai vu tomber l'arrivée. Je me suis tapé un fou rire tout seul. Et j'étais parti sur un a priori du coup très négatif sur ce film et j'en suis ressorti ce matin ravi.
Ah ouais?
Eh ouais mon gars.
Mais peut-être que incroyable. Ta vie a changé en deux.
Peut-être que ma vie a changé depuis et que je vois les choses de façon très positive. Alors déjà je précise, Hugo a eu la gentillesse de me faire parvenir le premier tome de la bande dessinée parce que c'est une adaptation de bande dessinée et qui a pour l'instant 4 volumes. Ça c'est une adaptation pardon du premier volume si je dis pas de bêtises. Et donc j'ai commencé à lire cette BD hier soir pour me mettre dans l'ambiance et j'avoue que ça me donnait pas du tout envie, je trouvais que c'était un peu glauque, c'est quand même une bande dessinée assez sombre finalement et assez triste, ça parle de un peu de malheur social, ça parle de lutte féministe,
de
ça parle
vieillir et de mourir.
De vieillir, de mourir, ça parle de choses quand même assez compliquées. Et j'avoue qu'au bout du premier tiers, je me suis dit, allez, je m'arrête là, on verra le film demain, et puis bah, tant pis pour moi, je me taperai une heure et demie de ce truc-là, et ça ira mieux après quand j'en parlerai avec les potes. Et en vérité, je trouve que l'adaptation est très intelligente. Il y a pas mal de scènes qui m'ont fait. Alors, j'ai pas vraiment rigolé, j'ai rigolé une ou deux fois pendant toute la séance. Ce film, pour moi, c'est pas du tout une comédie, c'est un drame. C'est un drame qui est très très bien géré par son réalisateur. Un petit peu moins du côté du casting parce que ça tourne rapidement au vaudeville, c'est un peu exagéré, ça surjoue forcément. T'as trois têtes d'affiche qui sont quand même des monstres,
des vieux cadors.
Ouais, des vieux cadors, des monstres de la comédie ou du cinéma français. Et bon, c'est
et
un petit peu
qui en font des caisses.
Voilà, c'est exactement ça. C'est à celui qui en fera le plus, avec au milieu quand même quelques acteurs et surtout actrices qui s'en sortent merveilleusement bien et qui tiennent à mon avis la plupart des scènes principales du film. Je pense évidemment à Alice Paul que j'ai trouvé géniale dans ce rôle-là. Au bout du compte,
Alice
voilà.
Paul, elle fait son taf. Oh. Tu l'appelles, elle fait son taf.
Mais franchement, elle est parfaite dans ce rôle-là, elle s'en sort très bien. Et surtout, au bout du compte, je me suis dit, c'est un beau film, c'est une belle histoire qui est intelligente, et c'est un film qui a quand même des moments assez audacieux dans sa réalisation.
moi, j'étais moins inspiré que tout ce que tu dis, en sachant que c'est une BD, en sachant que ça adapte même plus exactement le tome 1 et le tome 3, même un peu. Tu vois, ils ont fait un peu à l'Astérix, c'est-à-dire ils ont adapté. En plus, c'est l'auteur qui adapte sa propre BD.
Ouais.
Et je trouve que ça se sent en plusieurs moments. Mais d'abord, Hugo, qu'est-ce que toi t'en as pensé?
Justement, c'est une adaptation du premier tome de cette série de BD. Et moi, je trouve que c'est une adaptation un peu trop fidèle, parce que ça reprend quasiment plan par plan la BD. Et il y a quelques rajouts que je trouve pas très pertinents, de personnages ou de thématiques que je trouve pas très pertinentes. Et cette BD, ça évoque des aspects sociaux, ça évoque des personnages de 68 ans, etc. Et je trouve que cette thématique-là n'est pas du tout creusée, en fait. C'est un peu mis sur le bas-côté. Et c'est, à mon avis, c'est là-dessus qu'il aurait fallu faire le boulot d'adaptation, de creuser les thématiques, etc. Moins que d'ajouter de nouveaux personnages qui ne sont pas forcément hyper pertinents. Et l'autre défaut que je trouve, c'est que c'est une adaptation fidèle. Et donc, du coup, il n'y a pas ce travail d'adaptation de la BD en film, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui marchent en BD et qui marchent pas dans le film. Par exemple, des répliques un peu à la Audiard qui fonctionnent dans la BD, des expressions marrantes de vieux campagnards qui marchent dans la BD, et dans le film ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que c'est mal mis en scène, mal amené. Et la mise en scène, de manière générale, je trouve que, comme tu dis, c'est un film pas drôle, quoi. Donc là-dessus, on est d'accord. C'est une comédie pas marrante, avec des personnages qui cabotinent, notamment Pierre Richard qui en fait toujours beaucoup trop,
qui est assez insupportable au bout du compte.
Voilà, Alice Paul, moi je suis pas hyper fan, je trouve qu'elle est pas vraiment dans le rythme. Mais après, c'est vrai que moi je m'attendais à une comédie et je me retrouve face à un film qui est un peu le cul entre deux chaises, et je trouve que la dimension dramatique est pas hyper pertinente non plus, et pas hyper creusée.
Je suis un peu d'accord avec toi, et je pense qu'on va s'écouter un extrait avant de rentrer dans le cœur du sujet.
C'est pas possible d'être aussi con. C'est l'heure des cons, Garant Servier.
Ah, vous désirez une madeleine?
Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Vous avez pas réussi à escalader le mur, c'est ça?
Poussons!
On va pas passer notre temps à regarder dans le rétroviseur. On arrive au terme du mandat, on a chié les trois quarts de notre merde. Pas de remords ni de regrets.
Cinq minutes sans vieux, c'est trop demandé.
Attends, Antoine, je fais une photo. Je vais la tweet.
Il n'a pas un twister. C'est un mot qu'il emploie parce qu'il a lu dans la presse.
Ouais. Ça m'a fait rire.
Eddie Mitchell et elle donne balancer
Twister, ça
j'ai entendu ça. C'est une blague qui n'était pas dans la BD, je crois, non?
Non, elle n'est pas dans la BD.
Non, ça, c'est vraiment...
Mais en fait, il y a plein de petits détails qui ne sont pas dans la bande dessinée. Et,
de cet ordre.
Non, qui sont pas justement, qui ne sont pas forcément de cet ordre. Je pense par exemple à la scène... Alors, j'ai lu encore une fois que le premier volume. Peut-être que c'est, comme tu me disais, que Daniel, que c'était un mélange entre le premier et le troisième volume de la BD. La scène de la big révélation, la grande révélation de fin avec les marionnettes. Je l'ai trouvée ultra poignante, très bien réalisée, et ce qui est assez à la fois intelligent et moi qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est que ça met en place plein de petits mystères. Et t'as l'impression que plus ça avance, plus ça s'empile, et que ça va vraiment absolument partout et nulle part à la fois. Et à la fin, tu as toute une série de révélations qui s'emboîtent les unes dans les autres. Alors oui, c'est parce que la bande dessinée est très bien écrite, mais le fait est que certains rajouts, comme notamment cette scène de marionnettes, font que ça se tient vraiment, je trouve, à l'image.
Alors, j'ai un vrai souci et avec cette scène de marionnettes et avec, en fait, ce qui se passe, c'est que le film est toujours obligé de raconter ce qui se passe. C'est-à-dire...
De raconter des choses du passé. Surtout.
C'est-à-dire d'abord de raconter, de faire des flashbacks, de faire de l'évocation. Et littéralement, le rôle d'Alice Paul, à un moment, c'est d'être littéralement la personne qui raconte, quoi. C'est la narratrice, presque, à un moment. Et en fait, t'es tout le temps obligé d'être concentré sur l'histoire, et jamais tu les trouves un peu... Tu les trouves pas très sympas, ces trois gars. Et en plus, tu fais l'effort d'essayer de les apprécier. Et en plus, on t'assomme avec une histoire quand même assez complexe, avec une histoire d'héritage, et à un moment, quand il vient l'héritage d'Henri Guibet, et là, je me tourne vers Hugo et je lui fais, mais c'est l'argent d'où, en fait? On comprend pas très bien.
C'est parce que c'est l'inventeur du site Guibet.
très bon. Ouais. Alors, ta vanne est meilleure que beaucoup de choses dans...
Ça explique beaucoup de choses, cette vanne.
Oui, voilà. C'est que si tu fais une vanne plus drôle que ce qu'il y a dans le film, tu connais la règle d'air. C'est que c'est bon, tu peux réaliser ton propre comédie l'année prochaine.
Ouais, j'ai hâte.
Non, c'est...
Moi, je trouve que vous êtes quand même super dur parce que je pense
Moi, je me suis fait chier, vraiment.
C'est vrai, c'est fou, ça. Notamment la scène de grève en noir et blanc que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien foutue. Pour moi, il y a un côté... Pour moi, clairement, hein, Christophe Duturon, c'est le Zack Snyder français avec ce truc-là, quoi.
Bon, ok, j'exagère. On est d'accord aussi. Mais...
Hein. Je suis fan de Zack Snyder, désolé. Ouais, mais non, il y a quelque chose. Et ça encore, c'est un rajout parce que la façon dont elle est gérée, elle est étendue par rapport à ce que tu peux voir dans la BD à ce moment-là. Et ça amène quelque chose de très... De très mélancolique dans l'histoire.
Ça, c'est clair que c'est mélancolique.
Et je trouve que, juste pour terminer sur cette scène, par exemple, je trouve que Alice Paul, elle a fait quasiment rien dans cette scène. Elle est à peu près statique. Et pourtant, elle arrive à faire passer dans son visage, dans son regard, des choses vraiment fortes, grâce évidemment aussi à la caméra et à la vision du réel. Mais je trouve que c'est réducteur de dire que c'est la meuf qui raconte et qui est juste là pour ça. Au contraire, pour moi, c'est elle qui a les pieds sur terre et qui permet, au bout du compte, de voir que dans la vie, une histoire, il n'y a pas qu'un seul versant, il y a toujours deux points de vue.
Oui, mais c'est pas le Rashomon de la comédie.
Qu'est-ce qui se passe dans le film concrètement, en fait, à part des vieux qui racontent des vieilles histoires, une meuf qui découvre des vieilles histoires? Des gens qui se posent des questions sur des vieilles histoires. Et en fait, il se passe jamais rien dans le film. C'est toujours.
Mais il se passe rien de plus dans la BD.
Qu'est-ce qui s'est passé en 54? Ah oui, alors il s'est passé ça.
Et ça va encore plus loin. Ça va jusqu'en 40, 42, je crois.
Ouais, je m'attire à chaque fois.
Oui, c'est vrai que dans le film, à part un moment voyager à un endroit, ils n'ont rien fait en fait. Il n'y a pas d'action. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il y a un travail d'adaptation de sa propre BD. Et ça se sent, et là je vais devenir juste un peu plus technique, c'est pas de l'ordre de la mise en scène, ça se sent en termes d'écriture des personnages et de la manière dont s'enchaînent les dialogues. Il y a des moments où juste une punchline suffit. Et tu sens que je vois presque les bulles de BD en fait.
De toute façon, les dialogues sont parfois repris vraiment tels quels.
Je vois presque les bulles de BD quand tout d'un coup il y a vraiment une punchline en trop, une punchline suffisait. Et non, il fait parler l'autre. Et c'est très parlant. Je me souviens qu'on s'est fait la réflexion en regardant la toute fin où tout d'un coup il y en a un qui fait une punchline drôle et on se dit ah putain c'est pas mal. Et puis derrière il y a l'autre qui en rajoute une autre. Et l'autre qui en rajoute une autre. Et clairement, c'est un truc qui a été écrit comme une BD. Et en fait, non, parfois, il suffit...
Oui, c'est ça, pour que les trois personnages aient leur réplique. Et c'est vrai que ça marche avec trois bulles qui se répondent. Mais c'est vrai que pour faire une chute à un film comique, ça fonctionne beaucoup moins. Ouais.
Du coup, je pense que c'est vraiment un cas de trop bonne adaptation, quoi. C'est un truc où il fallait plutôt le laisser à quelqu'un d'autre et que...
C'est pas une adaptation, quoi. C'est une transcription, disons.
Ouais. Après, c'est pas Sin City en termes de fidélité non plus. Mais tu vois, il n'y avait pas besoin d'aller jusque-là.
Je disais Zack Snyder, mais finalement, c'est un peu le Watchmen français.
Mais toi, Pierre-Richard. Pierre-Richard, Roland Giraud et Eddie Mitchell, quand même. Bon, allez, les mecs, vous allez me dire combien vous mettez pour y aller.
Ah bah écoute, moi j'ai mis 4,50€ précisément, comme d'habitude. j'étais content, j'étais vraiment content d'aller voir ce film alors que je suis rentré dans la salle en traînant les pieds et j'en suis sorti touché et content. Et vraiment, si ça avait été une place plein tarif à 9 balles, j'aurais mis 9 balles et j'en serais sorti content.
J'espère que tu auras le même engouement lors de la prochaine émission.
C'est peut-être parce que c'est le début de saison aussi, je sais pas.
C'est vrai, il y a aussi ça. Et que quelque chose a changé, et t'es heureux. Hugo.
Moi, je mets 60 centimes pour l'ambition esthétique. C'est vrai qu'il y a des scènes en stop motion assez jolies.
Quelle indignité, Hugo Alexandre, quelle indignité.
Ne m'interrompez pas. Allez, 65 centimes.
Voilà, moi, je 1 euro parce que ça m'a fait plaisir de revoir ces vieux messieurs et qu'il y a quelques punchlines d'Eddie Mitchell. Et parce que pour moi, Claude Moine a arrêté sa carrière chanson. Donc, il s'appelle Claude Moine, oui, j'adore employer son vrai nom dans la vie, c'est Claude Moine. Et alors maintenant, c'est l'heure de la reco. Je suis sûr que Hugo, t'as une reco de Derrière les Fagots.
Ouais, moi je vais recommander Les Petits Ruisseaux, qui est une autre adaptation de BD, une BD de Pascal Rabaté qu'il a adaptée tout seul. Et c'est aussi une histoire de vieux campagnard donc qui vit la mort de son meilleur pote au début du film. Donc un peu comme au début du film, il y a une histoire de deuil. Et en fait, juste avant de mourir, son pote lui raconte qu'il a plein d'aventures sexuelles avec plein de vieilles dames, du coup. Et donc, du coup, ça le fait vachement réfléchir. Notamment, il doit gérer ce deuil. Et puis, il se dit peut-être que ma vie n'est pas finissante, que moi aussi, je peux encore vivre des choses. Et donc, c'est une espèce de road trip. Donc, avec Daniel Prévost, je ne sais pas si je l'ai dit, un road trip en voiturette sur les routes de France. Avec des aventures diverses et variées, et notamment une belle scène de sexe entre Daniel Prévost et Hélène Vincent.
Tu nous vends du rêve.
Et donc, flashback. C'est un peu une histoire vraie de David Lynch, mais à la française, donc avec Daniel Prévost. Donc c'est assez marrant, et c'est contrairement au vieux fourneau, je sens vraiment un vrai personnage. En fait, je sens pas juste des caricatures qui balancent des dialogues à la hauteur.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé même du caractère de Pierre Richard, qui est ultra caricatural. C'est vraiment l'alter.
Si c'était drôle, ça pourrait être un bon vecteur de comédie.
Il y a un truc qui m'a fait rigoler, mais c'est typiquement un gag à la Gaston Lagaffe. C'est quand il a un bitonio qui lui fait passer les péages.
Oui, ouais, c'est pas dans la BD, ça, je crois.
Ça fait partie des petits ajouts.
Ouais. Donc, Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté.
Et toi, Taroko ?
Alors, moi, j'étais parti pour vous parler de Désenchanté, la nouvelle série de Netflix. De Matt Groening, pardon, sur Netflix. Donc, Matt Groening, le créateur des Simpsons et de Futurama. C'est sorti mi-août. C'est super drôle. C'est très, très bien. Allez sur Netflix. Mais finalement, je vais changer d'avis. Je vous recommande quand même ce truc-là, mais je vais plutôt parler d'une autre adaptation de BD française, adaptée par l'auteur et le dessinateur lui-même. Et puis, quitte à contredire et à embêter Daniel aujourd'hui, je vais parler du Chat du Rabbin de Johann Svar. Trouve que le film, la BD est fabuleuse, évidemment. Et l'adaptation au cinéma était géniale et je vous recommande très très chaudement d'aller voir, surtout si vous aimez les chats et la philosophie.
Il faut être une 4 personnes, ouais.
Ouais, et j'aime bien la BD.
J'étais déçu là.
Non, mais voilà, j'aime bien la BD. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et moi, écoute, je ne pouvais pas faire une reco sans parler du grand Henri Guibet, qui tient un petit rôle de vieux.
C'est vrai, il est assez efficace.
Petit rôle de vieux monsieur dans ce. Mais quel est le meilleur rôle? Quel est le meilleur rôle d'Henri Guibet? Je pense il y a la 7e compagnie. il fait les derniers épisodes de la 7e compagnie. Mais si tout le monde le connaît, c'est parce que c'est Salomon.
Bah ouais.
Et Salomon, vous êtes juif. C'est quand même la réplique de De Funès que De Funès lui adresse dans Rabbi Jacob, qui l'a rendu le mec le plus connu du monde, quoi. Enfin, vraiment, c'est un des mecs le plus connu de la comédie française. C'est grâce à ça. Et Henri Guibet, c'est quand même un trésor national. Après, il a fait tellement de bonnes comédies.
Oui, j'aurais du mal à citer beaucoup de films avec lui. C'est vrai que il s'est un peu perdu.
Du coup, ça donne envie de s'y replonger et carrément de créer un podcast spécial Henri Guibet.
Ah oui. Classique Guignolo. Tu vois, il y a plein de
rétrospective.
Mais en fait, c'est aussi parce que à la fin des années 70-80, il a beaucoup fait des trucs genre Les Charlots et tout ça. Mmh. Et donc, du coup, il s'est un peu cloisonné là-dedans. Et en fait, il a beaucoup fait de théâtre après. Donc, le grand Henri Guibet.
Du coup, c'est quoi ta reco? Ouais, j'ai pas compris.
J'allais dire les Rabbi Jacob, mais après n'importe quoi. Je t'ai dit le Guignolo.
C'est vrai qu'il faut revoir Rabbi Jacob souvent parce que c'est quand même du bonheur en barre.
C'est essentiel. Merci à Quentin, notre assurance vie, pour la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, ainsi que SoundCloud. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, je sais de quoi on va parler, mais je ne sais pas si j'ose le dire. Je ne sais pas dans quoi on va mettre les pieds. Il n'y a pas eu de projo. Et toi, tu rigoles, Max, parce que tu sais que...
J'ai tellement hâte.
Moi, j'ai vraiment peur. Hein,
je sais que c'est pour toi.
Tu sais que c'est pour toi. Donc, on vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt. Je ne sais pas si ça va être bien. On vous embrasse. Ciao.
Thank you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.